Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Alors, une petite chose avant de vraiment commencer, de rentrer dans le cœur du sujet. Il s'agit de faire un petit erratum sur une chose que j'ai dite. Il y a, la dernière fois que je suis venu ici, en chair, j'ai dit que la vocation, le mot vocation avait la même racine que le mot voué. J'en étais tellement persuadé que je n'avais même pas vérifié. Et c'est complètement faux. Ça a la même origine que le mot vœu. Ah, c'est pas totalement étranger hein, dans le processus, sauf que c'est l'inverse. Hein. La vocation, c'est être appelé, ça vient de vocare, et voué, c'est presque le retour, hein, la réponse à l'appel par lequel on voue, on peut vouer, faire un vœu, voveo, étant la racine de ce mot. Voilà, mais on s'est fait. Et on peut y aller dans le message. Et il y a quelques semaines, notre pays a vécu des heures d'une assez grande intensité émotionnelle. Et je vous rappelle à votre souvenir, deux de nos compatriotes ont été pris en otage au Bénin et leur guide a été tué et laissé sur place. Et on a appris dans les jours qui ont suivi qu'un commando d'élite français les a libérés, mais pas sans en payer un prix, puisque deux d'entre eux ont trouvé la mort dans cette opération. Tout notre pays s'en est ému et un hommage national leur a été rendu. De nombreuses voix se sont élevées aussi avec diverses considérations. Deux vies perdues pour deux vies sauvées, c'est absurde. La fine fleur de nos armées contre des touristes inconscients, une prise de risque inconsidérée pour un simple safari photo, la mise en danger inutile de sa propre vie, mais surtout de plusieurs autres, les guides, les populations locales, les soldats qui sont par ailleurs très engagés sur d'autres fronts autrement plus stratégiques. Et au cours des hommages rendus à juste titre qui ont suivi ces événements, il a été souligné à plusieurs reprises et par le président Macron lui-même que ces hommes avaient donné leur vie pour sauver celle de leurs compatriotes. Et ces paroles, bien sûr, résonnent à double titre hein, pour les chrétiens, car bien évidemment, elle nous ramène au sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour notre salut éternel. Et en la personne du Christ, cette vérité est au cœur même de notre prédication. Et c'est ce que Paul, le fondateur de la première église à Corinthe, première église qui a vu le jour à Corinthe, rappelle à ses membres, aux membres de cette église, assez vertement d'ailleurs, parce qu'il l'avait un peu perdu de vue. Et donc, je lis dans la version du Semeur ce que Paul le rappelle. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Nous prêchons un Christ mis en croix, crucifié. Quelle idée ! Ce sont les malfaiteurs, je vous rappelle, qu'on mettait en croix du temps de la domination romaine, les déchets de la société, ceux dont on n'attendait plus rien, et pour faire des exemples. Les Juifs crient au scandale. C'est cet homme-là que vous nous demandez de recevoir comme le Messie ? C'est cet homme-là qui doit délivrer Israël de ses ennemis, lui, le Fils de Dieu. Vous me demandez de croire que Dieu lui-même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourrait se laisser clouer sur une croix, desséchée au soleil, on sait ce que ça veut dire en ces temps. Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a englouti l'armée des pharaons, dans les eaux de la mer Rouge. Quelle idée, on n'y pensait même pas. Et ceux qui n'étaient pas juifs et que par opposition, Paul appelle les Grecs, dans le bouillon culturel de l'époque, les Grecs donc crient à l'absurdité. Attendez, quel est le sens de tout ceci? En quoi et de quoi la mort d'un seul sauverait-elle l'humanité tout entière? Encore ceux d'Athènes veulent bien l'écouter, tant que la discussion reste philosophique. Mais quand ils entendent parler de résurrection des morts, alors là, Il le laisse en plan, en s'échangeant des sourires entendus, baliverne. Oui, Paul le rappelle avec insistance aux croyants de Corinthe, c'est un envoyé de Dieu crucifié, mis en croix, qui est le point central et culminant de notre prédication. Et il le redit une deuxième fois, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose, pas d'autre chose, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas d'autre chose. Et pourtant, on sait quand même tout ce que Paul a apporté aux croyants de Corinthe. Cette lettre, comme la suivante, est truffée d'enseignements et de conseils pratiques pour ces chrétiens de culture hellénique et qui avaient vécu pour la plupart bien loin de la foi biblique et qui étaient étrangers. La Sainte Cène, que nous n'avons pas prise aujourd'hui, mais que nous prenons régulièrement, est souvent introduite et dans de nombreuses églises par un passage qu'on trouve ici même dans cette lettre aux Corinthiens. Elle contient aussi un magnifique plaidoyer sur l'amour qu'on lit dans nombre de mariages et qui est même souvent repris dans des écrits autres que dans le contexte chrétien. Son image qui compare l'Église à un corps composé d'une multitude de membres illustre à merveille la diversité, le rôle et l'interdépendance de chacun entre nous dans la communauté des croyants, placés sous une seule tête. Mais il le dit clairement, cette tête, ça ne peut être que le Christ. Rien n'est plus important pour moi que de vous apporter le Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On a loué, et à juste titre, je crois, le courage de ces deux soldats qui ont trouvé la mort en sauvant deux de leurs compatriotes. À titre très personnel, j'en étais très bouleversé et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre le sacrifice de Jésus et le leur. Et bien des similitudes nous y portent. On nous a expliqué qu'ils sont allés au combat sans tirer un coup de feu pour ne pas exposer la vie des otages. Mais que du coup, ils ont exposé la leur de manière accrue. Comment ne pas comparer cette situation à celle de Jésus qui disposait de tous les moyens de se sortir de ce mauvais pas, de se soustraire à la crucifixion et qui a renoncé devant l'importance de la mission qui consistait à nous sauver, sans quoi nous n'aurions pas pu être sauvés. Des similitudes, mais aussi des différences. Mais s'il savait qu'il prenait d'énormes risques, ces commandos français ne partaient pas avec la certitude de ne pas en réchapper. Fort de leur technique et de la qualité de leur entraînement, ils pouvaient nourrir un espoir raisonnable de revenir avec les otages sains et saufs. Jésus, lui, savait qu'il allait à la croix, quoi qu'il arrive, et que c'est un corps sans vie qui en serait redescendu et mis au tombeau. Il l'avait annoncé à ses disciples, tout comme il leur avait déclaré, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ce contexte, soyons fous. L'espace d'un instant, quelques secondes. Imaginons que un des otages qu'on est venu arracher aux griffes de leur ravisseur réponde à leur libérateur « Ben non, finalement non, je vais rester là. C'est sympa d'être venu me chercher, mais non, sans façon. On verra bien où ça me mènera. » Ou bien encore « Oh, vous savez, je ne suis pas vraiment en danger ici. Ça me paraît beaucoup plus risqué de vous suivre. » Un autre plus calculateur, si je vous suis, je vous devrai beaucoup. Que me demanderez-vous en retour? Ou bien encore, écoutez, nous étions juste en train de monter un projet d'évasion et votre initiative tombe mal. D'autant que vous avez déjà deux morts dans vos rangs, notre projet nous semble beaucoup plus sûr. Bon, enfin, est-ce qu'on entend souvent, écoutez, la journée a été éprouvante, vous pourriez pas repasser plus tard. Paul nous disait que les Grecs de son temps trouvait absurde de considérer le sacrifice de Jésus comme le point culminant de l'amour de Dieu, comme source de salut. Mais l'image que nous donne cette libération tragique met en évidence ce qui serait réellement absurde. Dans quel camp se trouve vraiment l'absurdité ? Recevoir le Christ crucifié dans nos vies, alors qu'il frappe clairement à la porte de notre cœur, ou bien choisir plutôt de faire la sourde oreille. On parle là de choses qui touchent à la vie, à la mort, au salut, à la perdition, ou dans les termes que dont nous a parlé Michael la semaine dernière, au paradis et à l'enfer. Ce ne sont pas des choses qui relèvent de la vie de tous les jours. Et quelques lignes plus loin, Paul avertit ses lecteurs que nous sommes incapables de les comprendre si nous leur appliquons les valeurs de la vie matérielle, parce que c'est sur un plan spirituel qu'on peut s'en approcher, qu'on peut en juger. Comme les otages se sont tout à coup trouvés confrontés à un contexte où tout ce qui avait fait leur vie jusque-là était balayé en un instant et perdait tout son intérêt, où surgissaient des considérations toutes différentes, toutes nouvelles, la valeur de la vie, la confrontation inattendue avec la mort. Il nous faut, nous aussi, nous projeter dans une dimension spirituelle où là, c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Et pour autant qu'elle est spirituelle, en est-elle pour autant irréelle ? Si nous considérons le sacrifice de Jésus sous cet angle, en prenant en compte la part spirituelle de notre personne et pas seulement sa part matérielle et corporelle ou sa part de personnalité, dans quel camp se situerait vraiment l'absurdité ? Alors, ce qu'il faut souligner quand même, et ce qui est remarquable avec Jésus, c'est qu'il n'a pas négligé les parts matérielles et corporelles de l'être humain. Ça nous a été rappelé ce matin. Il n'était pas un doux rêveur qui faisait abstraction de ses considérations pour nous inviter à vivre je ne sais quelle expérience fumeuse. Au contraire, il a pris soin des personnes, s'en a occupé, il en a guéri des centaines et des centaines. Il leur a donné à manger dans un mariage, a changé de l'eau en vin. Ce Jésus lui-même, un être de chair, a accompli de tels miracles qu'il était impossible pour ceux qui l'observaient de le prendre pour un zinzin dès qu'il se mettait à parler de Dieu, de la vie éternelle, de la nécessité d'entrer dans une nouvelle vie avec lui. L'image d'une personnalité mystique hors du monde est tellement loin de ces actes concrets, très terre-à-terre, mais néanmoins prodigieux qu'il a accomplis. Ces actes miraculeux, il les a accomplis avec à la fois une pure compassion envers la misérable humanité qui l'entourait, que pour attester auprès d'elle de sa nature divine. Impossible donc, objectivement, de le prendre pour quelqu'un d'autre que l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même devenu homme. Mais il faut mettre un bémol, car c'est pourtant ce qui s'est passé pour certains auditeurs, en particulier parmi les plus religieux du clergé de l'époque. Et au contraire, même devant l'évidence, ils se sont saisis du prétexte de ces miracles pour tenter de l'amener sur leur terrain fait de légalisme, de controverses relatives à l'observance de règles innombrables et par lesquelles ils tiraient leur domination. Et ils ont bien sûr vu d'un très mauvais œil ce Jésus qui venait libérer le peuple de ce joug pour le faire entrer dans une relation directe, de vérité, d'intimité avec Dieu. Et finalement, ils sont parvenus à leur fin en obtenant de l'autorité romaine qu'elle condamne cet empêcheur de dominer en rond à la peine de mort par crucifixion, une peine, on l'a dit, réservée aux parias de la société. Au contact de Jésus, ils se sont endurcis. Et là, il nous faut aborder un sujet un peu difficile. À trois reprises, la Bible affirme que le cœur du peuple de Dieu est devenu insensible. La première fois, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, par la bouche d'un prophète d'Israël. La deuxième fois, c'est Jésus lui-même qui l'affirme, citant presque mot pour mot les paroles de ce même prophète. Et la troisième fois, c'est Paul, notre Paul, qui nous avons lu tout à l'heure, l'auteur de cette lettre aux Corinthiens, qui en fait le constat, le même constat amer et dans les mêmes termes, à la toute fin de sa vie, passée à annoncer l'Évangile, à annoncer aux Juifs et aux Grecs la bonne nouvelle de Jésus. Et de nouveau, il cite les paroles de ce prophète qui disait « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. » Et il fait ce constat paradoxal, presque ironique, que si certains accueillent avec empressement le salut que Jésus leur offre, d'autres s'infligent à eux-mêmes le tort d'entrer dans un processus de rejet, d'endurcissement, qui ressemble à une antidote toujours plus forte à toute forme d'introspection, à toute remise en question de ses propres valeurs. Entendons-nous bien, il n'est pas dans le désir de Dieu que certains hommes soient exclus du salut, de la vie éternelle. Nous avons une foule de textes qui nous permettent de l'affirmer, et nous en avons même un, encore de Paul, qui dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, tous les hommes sans exception. Même le pire des parias, même les chefs religieux qui se sont opposés à Jésus jusqu'à obtenir sa mort. Et d'ailleurs, après le bémol que nous venons d'exprimer à leur sujet, nous pouvons émettre maintenant un dièse symbolisant l'espoir. Peut-être les musiciens le comprendront mieux que d'autres. Mais même parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en Jésus-Christ. Mais, nouveau bémol, ils n'en faisaient pas cas par crainte de l'hostilité des autres. Le peuple dont il est question et dont le cœur est devenu endurci, insensible, est pourtant celui qui était le plus averti, le peuple juif. Et à ce titre, il aurait pu être le plus sensible. Mais nous aurions tort de ne pas prendre aussi l'avertissement pour nous-mêmes, même si nous ne faisons pas, pour la plupart d'entre nous, je pense, partie de ce peuple juif. Car il y a des moments où Dieu frappe à la porte. Il y a des moments où nous sentons que des choses importantes à comprendre passent à notre portée. Il y a des moments où nous sommes interpellés personnellement et placés face à un choix. Et ce que j'ai envie de vous dire, ce que je retire de ce passage, c'est que repousser la voix de Dieu nous rend rapidement moins sensible, plus endurci. La repousser deux fois, trois fois, et déjà elle se fait moins pressante, moins audible, plus confuse. On peut aller à l'église tous les dimanches et devenir un champion de l'esquive à la voix de Dieu. Au fil des années, j'ai connu une foule de personnes qui se sont approchées à ça, d'accueillir Jésus dans leur vie, mais qui sont restés si longtemps à ça, que ça est devenu ça et ça. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, elles sont vaccinées contre la voix de Dieu. Un autre texte de la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et on le cite souvent, pour inviter à l'écoute de la voix de Dieu, et c'est exactement ce qu'il veut dire, et mettre en garde contre la désensibilisation du cœur, comme nous venons de le faire à l'instant. Mais il ne faut pas oublier un mot qui se trouve au tout début et qui est très important, qui est le mot « aujourd'hui ». Car si c'est aujourd'hui que nous entendons la voix de Dieu, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il attend une réponse de notre part. Sommes-nous sûrs de l'entendre aussi clairement demain? Sommes-nous sûrs seulement qu'il y ait un demain? Et en parlant du lendemain, je réfléchissais tout haut avec Chantal sur ce que pouvait devenir la vie des otages une fois libérés. Imaginons comment retourner à la vie ordinaire après ça. Comment vivre avec le souvenir de cette captivité, puis de cette libération dramatique? Comment vivre avec l'image du guide froidement assassiné, celle des deux libérateurs étendus morts sur le sol? Comment vivre auprès des siens alors que les leurs en sont privés pour toujours? Et à ces questions, Chantal a simplement répondu: tu ne pourras plus vivre comme tu vivais avant. Entendons-nous bien, je ne vais pas ajouter ma voix aux accusations qu'on a pu entendre sur leur inconscience et leur irresponsabilité. Je pense que tous, à un moment ou à un autre, on a exposé notre vie, peut-être notre famille, notre situation professionnelle ou que sais-je encore, et qu'il ne s'est pas trouvé de circonstances qui nous en fassent payer le prix fort ou faire payer aux autres, comme dans le cas présent. Mais nous avons là une image très parlante de la manière avec laquelle Jésus nous appelle à réformer nos vies. Et elle nous donne l'occasion de réfléchir à la vie que nous pouvons adopter désormais. Et c'est vrai que, quand même, on imagine mal ces personnes, demain, se rendre dans une agence de voyage et prendre un billet d'avion pour retourner au même endroit, comme si de rien n'était. Et là, je redonne la parole à notre ami Paul. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Et nous lisons ça dans une deuxième lettre que Paul adresse un peu plus tard aux mêmes Corinthiens. L'amour du Christ nous étreint. Paul parle là de l'amour que le Christ a eu pour nous sauver. Et il est évident que la seule réponse à la hauteur, qui soit à la hauteur de cet amour, c'est de l'aimer en retour. Quand il dit que tous sont morts en lui, il parle de cette identification que nous pouvons éprouver parce que sa mort fait désormais partie de notre vie. Et je pense que les otages sauraient très bien la décrire. Ils sauraient très bien décrire comment la mort de ces deux soldats est intimement liée à leur vie, au point qu'ils peuvent s'identifier à eux. Et c'est cette identification qui débouche sur la principale différence entre l'ancienne et la nouvelle vie, ne plus vivre pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Alors, d'une manière probablement étrange, et qui va vous sembler probablement étrange, je vais réintroduire ici le bémol que j'avais introduit tout à l'heure, bémol de mise en garde que nous avons lu un peu plus tôt. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, je le relis. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. Alors, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Philippe, tu l'as déjà dit. Tu tournes en rond, alors que nous sommes censés avoir franchi le pas et basculé avec joie dans cette nouvelle vie qui nous tend les bras, une vie dans laquelle nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ben parce que malgré tout, il demeure assez tentant de laisser notre cœur s'endurcir, même dans cette nouvelle vie avec le Christ. S'endurcir à l'écoute de la voix de Dieu, lorsqu'il met le doigt sur tel ou tel point amélioré. Faire la sourde oreille à nos frères, et à nos sœurs aussi d'ailleurs, voire les repousser plus ou moins violemment quand ils abordent certaines choses sous un angle qui s'oppose, qui est à l'opposé de nos propres certitudes. Les bousculer sans ménagement pour leur imposer ces mêmes certitudes. Boucher ses yeux, de peur de voir ce qu'on ne veut pas voir, surtout si c'est en nous. Finalement, redouter et refuser de comprendre ce qui pourtant est en train de devenir une évidence. Craindre de procéder à une introspection, de devoir s'humilier, de se laisser opérer par Dieu en vue d'une guérison. À la guérison, on veut bien, si du moins on n'a pas déjà pris son parti du mal qui nous tourmente, mais l'opération qui précède la guérison, ça c'est plus douloureux, et c'est rarement de gaieté de cœur qu'on s'y prête. Alors bien sûr, nous avons un ennemi qui se fera un malin plaisir de brouiller les pistes par ses tentations, par ses suggestions, mais quand même, sur ces questions, il est assez facile de devenir notre meilleur ennemi. Alors, lorsqu'on répond favorablement pour la première fois à la voix de Dieu, il faut aussi avoir l'idée, à l'esprit, que ce ne sera pas la dernière fois. Et cette voix, on va apprendre à l'écouter, à l'accueillir et à la suivre. Mais surtout, et je conclue là, de moins en moins à la craindre et de plus en plus à l'aimer.